Il n'y aura pas de forum ce soir sur Radio Shalom parce qu'on va essayer, un exercice difficile, c'est de comprendre comment fonctionne le Hamas, comment réfléchit le Hamas. Et pour ce faire, nous sommes en ligne avec Georges Malbruno, qui est grand reporter au Figaro. Bonsoir Georges.
Bonsoir.
Vous connaissez très bien cette région. Et surtout, en ce qui nous intéresse aujourd'hui, vous avez réalisé une enquête au Liban, en Jordanie, au Qatar, sur les préparatifs de l'attaque du 7 octobre. Vous avez rencontré l'un des principaux dirigeants du Hamas, qui est un homme très secret, puisqu'il se sait cibler. C'est-à-dire, c'est un homme qui ne va pas donner des interviews aujourd'hui, il s'appelle Khaled Meshal. Vous l'avez vu longuement, et il vous donne sa vision des choses. Donc c'est intéressant, parce qu'on se dit, c'est totalement apocalyptique, et on découvre, à travers votre enquête et à travers votre travail, que même les mouvements les plus nihilistes, les plus fous, ont une logique, qu'on va essayer de décrypter, de comprendre avec vous, ou tout simplement d'entendre. Vous allez nous expliquer ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Alors, commençons, si vous voulez, déjà par peut-être, j'ai envie de dire le début. La préparation du 7 octobre, ça prend au minimum un an. C'est-à-dire, ça fait un an. Là, il y a un de vos interlocuteurs qui dit, moi, il y a déjà un an, on m'avait dit, la prochaine guerre, non, même peut-être déjà tout de suite après Tzouk Etan, déjà le Hamas y pensait, mais l'un de vos interlocuteurs vous dit, moi il y a déjà un an, Sinwar, il m'a dit, la prochaine guerre, elle se fera en territoire israélien, on va les occuper, on va occuper leur territoire, on va porter la guerre chez eux, ce qui est complètement impensable, puisque nous, jusqu'aux 7-6 heures du matin, on pense que c'est impossible. Eux, ça faisait déjà un an qu'ils préparaient ça, je me trompe ?
Non, vous vous trompez pas, même... Un de mes interlocuteurs qui vit à Gaza et qui en est sorti et que je connais depuis une trentaine d'années m'a dit effectivement qu'en 2021, donc deux ans avant l'opération du 7 octobre, eh bien, Yahya Sinwar lui avait dit que, je le cite, la prochaine opération aurait lieu à l'intérieur d'Israël et les brigades des Zedine El-Kassem enverraient 5000 de leurs membres récupérer Ashkelon. Ashkelon, vous savez, Al-Majdal en arabe, qui est la ville dont est originaire la famille de Yahya Sinwar. Donc, ça faisait deux ans, effectivement, que cette idée d'invasion terrestre d'Israël flottait, et ça m'a été confirmé à Amman par un proche, un expert qui est proche du Hamas, qui m'a confirmé que cette idée-là flottait dans l'air depuis deux ans, depuis 2021. Donc c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, comme vous voyez.
Il y a quand même, donc c'est très bien préparé, mais il y a quand même une question que tout le monde se pose. Apparemment, ils n'ont pas, et c'est ce que vous dites aussi dans votre longue enquête, ils n'ont pas prévenu ni le Hezbollah ni les Iraniens. D'ailleurs, il y a même des responsables du... Meshal, par exemple, Khaled Meshal vous dit « Moi, j'étais prévenu une demi-heure avant l'entrée en territoire israélien. » On m'a rien dit. Ça, c'est la branche militaire, il faut ça tout seul. Mais Georges Malbruno, comment on peut préparer une opération qui, soyons francs, a été un succès incroyable. Je veux dire, là, le Hamas, on prend strictement ce qu'ils ont fait sur le terrain, et c'est parfait. Hein. C'est horrible à dire, mais c'est parfait. Et comment ils sont capables de faire une bourde pareille, ils oublient de prévenir le Hezbollah. Alors vas-y. Détail.
Ils n'ont pas oublié, ils n'ont pas voulu prévenir.
Oui, mais oui, ils ont oublié qu'ils allaient le payer très cher.
Voilà. Alors, si vous voulez, moi, j'ai vu justement un haut responsable du Hezbollah que je vois régulièrement, qui n'a pas voulu que je le cite cette fois-ci, donc je ne le citerai pas, mais qui m'a dit, nous, on a été surpris, on n'a pas été informé, et on a été encore plus surpris que l'Iran n'ait pas été informé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, Yahya Sinwar, et Mohamed Deif est probablement le frère Mohamed Sinwar, qui est très vraisemblablement, d'après ce que me dit ma source à Gaza, le vrai chef de la branche armée du Hamas, beaucoup plus que Mohamed Deif, qui est l'icône qu'on montre, mais qui n'est pas vraiment celui qui fait bouger les brigades. Eh bien, une demi-heure avant le lancement de l'opération, la seule personne que Yahya Sinwar a prévenue, c'est Saleh Al-Arouri, à Beyrouth, lui demandant de prévenir Cheikh Hassan Nasrallah, le patron du Hezbollah, le principal allié du Hamas. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Ensuite, quand j'ai demandé justement à Khaled Meshal, j'ai dit, est-ce que à vous, vous avez été prévenu? En tout cas, je lui ai demandé, est-ce qu'une opération de cette ampleur-là peut avoir été perpétrée sans l'aval des politiques du Hamas? Il m'a répondu, je ne vous répondrai pas ni oui, ni non, mais je peux vous dire que la stratégie du Hamas y compris une opération comme celle du 7 octobre, est définie par les politiques du Hamas, la branche politique. En revanche, les détails de ces opérations sont laissés à la discrétion des militaires. Donc, il maintient une espèce comme ça de flou. Je pense que la branche politique du Hamas a vaguement avalisé ce type d'opération sans évidemment connaître les détails de cette opération. Et ce qui s'est passé après, d'après ce qu'on m'a dit de bonnes sources, c'est que les trois derniers mois, Yahya Sinwar, comme Mohamed Deif, mais en particulier Yahya Sinwar, a coupé quasiment toute relation avec la branche politique du Hamas à Doha, ne les prenant pratiquement plus au téléphone. Même Moussa Abou Marzouk, qui est un cadre, comme vous le savez, de la branche politique du Hamas, est venu, je crois, fin septembre dans la bande de Gaza. Yahya Sinwar l'a fait attendre 10 jours avant de le recevoir, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été écrit d'ailleurs, compris par des spécialistes israéliens, c'est que Yahya Sinwar et la branche politique entretiennent des relations difficiles, tendues. Donc, Sinwar et Deif, et peut-être son frère Mohamed Sinwar, ont conçu cette opération de manière extrêmement secrète. Ce qu'ils ont fait aussi, de manière, je dirais, entre guillemets, assez intelligente, c'est que ils ont gardé les chefs des principales...
Les cadres intermédiaires, tous ceux que le Shin Bet connaît.
Voilà, les ont gardés.
Ils les laissent, mais c'est pas eux qui dirigent.
Ils les laissent et ils font monter à leur place des clones qui, eux, ne sont pas connus et qui vont conduire les opérations. Il y a eu aussi Sinwar et son entourage est allé voir aussi quelques semaines ou quelques mois avant l'opération des petits groupes salafistes, radicaux, encore plus que le Hamas, qui sont dans l'orbite d'Al-Qaïda, avec lesquels ils ont des relations tendues, qu'ils surveillaient, et ils leur ont proposé des armes et des entraînements. Et l'un de ces groupe, Jaish al-Umma, qui est proche d'Al-Qaïda, a reconnu le 3 décembre avoir participé à cette opération. Donc il y a eu effectivement un travail de camouflage extrêmement hermétique qui a été mené par Sinwar, par Deif et les autres, qui ont fait que les Israéliens, même si vous le savez, le Mossad, l'unité 8200, le Shin Bet avaient quand même repéré des choses. Mais en tout cas, ils ont agi de manière extrêmement secrète et y compris à l'égard de leurs alliés. Et c'est pour ça que le Hezbollah, il faut bien le voir, est assez mécontent du Hamas. Pourquoi il est mécontent? Parce qu'ils n'ont pas été prévenus et parce que, c'est ce que je révèle dans mon article, j'ai vu une source habituelle qui est proche du Hezbollah qui me dit le Hamas, en quelque sorte, a volé la vedette du Hezbollah. Parce que le mode opératoire du 7 octobre, l'attaque terroriste du Hamas, eh bien, c'était ce que le Hezbollah prévoyait de faire dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, c'est-à-dire une pénétration à l'intérieur de la Galilée par l'unité d'élite, la force Radoun. Là, ces cartes, me dit cette source proche du Hezbollah, ces cartes ont été grillées.
Ah oui, parce qu'il faut l'effet de surprise. La grande idée du 7 octobre, c'est l'effet de surprise. Les Israéliens ont été surpris. Et donc là, le Hezbollah va avoir du mal à le refaire.
Exactement, c'est pour ça, et je l'ai bien senti auprès de mon interlocuteur qui est un des hauts cadres des 5-6 personnes qui dirigent le Hezbollah, il m'a dit, nous, on a été surpris. On a été surpris, donc il y a une solidarité avec le Hamas, mais l'objectif numéro un du Hezbollah, c'est protéger le Liban. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas de guerre avec Israël au-delà de ce qui se passe aujourd'hui.
Alors justement, avec votre permission, j'ai tellement de questions à vous poser sur cette enquête que vraiment, d'ailleurs, je recommande aux auditeurs, hein, si c'est disponible sur le site internet, allez-y, parce que vraiment, on découvre un univers. Et Dieu sait que je travaille sur cette question tous les jours et depuis longtemps. Alors, la personnalité de Sinwar, par exemple. Sinwar, il y a un proche qui dit, il y a une blague qui tourne chez nous les Palestiniens, c'est que Sinwar un jour il marchait dans la rue et sa femme elle marchait derrière lui et il lui a tiré une balle dans la tête parce qu'il a cru qu'elle l'espionnait, c'est sa femme.
Qu'il est paranoïaque. Il est paranoïaque. Parce qu'il vit dans l'ombre, il est paranoïaque et c'est quelqu'un qui est dépeint par cette source qui le connaît depuis 1983, lorsqu'il s'affrontait déjà à l'université islamique. Ma source est laïque et Sinwar était déjà islamiste. Et bien me dit, c'est quelqu'un, c'est un petit dictateur qui est insensible à aux victimes civiles palestiniennes, qui a un caractère très difficile, qui est capable de renvoyer dans les cordes, l'ambassadeur du Qatar, comme c'est déjà arrivé, qui lui apportait 13 millions de dollars, mais non pas les 30. Et Yahya Sinwar lui dit, moi je veux les 30 et je veux les 17 autres. Et l'ambassadeur du Qatar lui dit, d'accord, vous les amène, mais il faut que vous me garantissiez que les fêtes juives se passeront dans le calme. C'était quelques semaines, quelques mois avant l'opération du 7 octobre. Et Sinwar lui dit, ben, dans ce cas-là, rentrez chez vous, etc. Donc c'est quelqu'un qui est difficile à gérer, d'où sa relation complexe, difficile avec la branche politique. Et ce que me dit ma source, qu'il connaît bien, il les connaît bien tous, me dit, si jamais Israël neutralise, élimine Yahya Sinwar, il n'y a pas que les Israéliens qui seront contents, la branche politique à Doha et probablement le Qatar seront également très contents parce que ça libérera de la place et c'est quelqu'un qui est extrêmement, extrêmement dur et qui aujourd'hui voit son pouvoir renforcé parce que c'est celui qui mène la résistance face à Israël dans la bande de Gaza.
Alors c'est quelqu'un de cruel, c'est quelqu'un, je lis toujours dans votre enquête, qui peut voir 1000 Palestiniens mourir, ça ne lui change pas sa journée. Pour lui, 1000 Palestiniens, c'est rien. Alors, vous dites à l'un de vos interlocuteurs, vous dites, non mais attendez, c'est quand même votre histoire. Vous êtes devenus les parias du monde. Vous avez fait un massacre qui vous a rendu... vous êtes mis à l'index de la planète entière pour cette horreur, pour cette cruauté. Et Khaled Meshav dit non, pas du tout. Alors, il faut comprendre que, pas du tout. Les talibans l'ont fait avant nous, les Américains négocient avec eux. Même Arafat, il a commencé en faisant du hijacking, comme on dit en anglais, en faisant du détournement d'avion, il s'est retrouvé à la Maison Blanche. Et alors, Khaled Meshal, il pense que pas du tout, que c'est très réussi. Il dit non, c'est très réussi notre truc. On est devenu légitime.
Khaled Meshal, c'est un politique, lui. Alors, je l'ai eu 1h50, je l'ai déjà interrogé, je l'ai poussé dans les retranchements. Et donc, je lui ai dit, effectivement, il m'a dit, d'abord, on subit des pertes, mais on ne sera pas anéanti. On est encore capable d'envoyer des missiles sur Tel Aviv. Nos combattants sont encore capables de sortir régulièrement de leur tunnel et de documenter à base de vidéos leurs attaques. Donc, on ne sera pas anéanti. Je lui dis, très bien, certes, vous n'êtes pas anéanti, vous résistez, mais vous avez massacré et vous n'êtes plus fréquentable. Alors, comment vous réglez cette contradiction ? Et il me dit, mais effectivement, il me dit, mais les États-Unis doivent tirer les leçons de l'histoire. Les talibans, vous l'avez dit, ont été infréquentables, ils sont fréquentés par les États-Unis. Nelson Mandela a été infréquentable, il a été fréquenté. Arafat a été infréquentable, il a été fréquenté, on lui a décerné le prix Nobel de la paix. Voilà. Ce que ça veut dire derrière ça, c'est que quelqu'un comme Khaled Meshal, qui n'est pas un militaire, est dans une logique politique. Il est dans une logique politique. Moi, l'idée que j'ai eue en sortant de l'entretien, c'est ce type cherche à monétiser politiquement la posture actuellement du Hamas qui, hélas pour vous, ne sera pas éliminée. Militairement en grande partie, mais pas politiquement. Et donc, pour continuer d'exister, mais je lui dis, mais ok, très bien. C'est quelqu'un qui est, ils sont aussi bien Khaled Meshal que j'ai vu à Doha, que Oussama Hamdan que j'ai vu à Beyrouth, à qui j'ai posé la même question. Je lui ai dit, mais très bien, vous résistez, vous êtes peut-être populaire dans les pays arabes aujourd'hui, mais vous êtes infréquentable, vous avez massacré trop de gens, vous avez nui à la cause palestinienne. Il me dit, mais vous n'avez pas vu l'enquête de libération de Fact News cette semaine qui dit qu'Israël aussi, etc. Donc j'étais assez bluffé. Ce sont des gens, ce que je veux vous dire, qui à la fois qui ont pignon sur rue et qui sont bien informés, qui ne sont pas, il faut faire attention, ils ne sont pas dans un délire. C'est un mouvement qui est terroriste le 7 octobre, etc. Mais ils sont dans une logique aujourd'hui politique. On est ouvert, disent-ils, au partenariat avec les autres formations palestiniennes, dans le cadre peut-être d'une OLP rénovée. Voilà, on veut partager le pouvoir. J'ai dit à Khaled Meshal, mais comment voulez-vous... Certes, vous êtes populaire, vous résistez bien, mais vous êtes infréquentable. Donc comment vous allez monétiser cette équation-là, etc. Faites un geste sur... Je lui ai cité l'article 17 l'article 20, pardon, de la charte amendée du Hamas de 2017. Et il me dit, c'est toujours notre objectif politique. Je dis, très bien. Donc ça veut dire que vous reconnaissez implicitement Israël dans les frontières du 6 juin 67. Très bien. Est-ce que vous pouvez aller plus loin sur la reconnaissance? Alors il me dit, nous avons tiré la leçon d'Oslo. Yasser Arafat a commis l'erreur de reconnaître Israël en 1993, 30 ans après, il n'a pas eu son État. Je dis, ok, d'accord, vous avez raison, mais est-ce que vous êtes idéologiquement opposé à une reconnaissance d'Israël lorsqu'il y a un État palestinien? Et là, il me dit une phrase intéressante, il me dit, lorsqu'il y aura un État palestinien, à ce moment-là, il y aura une décision qui sera prise sur la reconnaissance d'Israël. Voilà, me disant pas, y est opposé ou pas. Et là, après, ce qui est intéressant, c'est qu'il me l'a dit, et après, il m'a fait savoir, il m'a dit, ça, il faut l'enlever parce que je pense ça, mais d'autres ne pensent pas ça. Ça veut dire qu'il y a un débat au sein du Hamas entre ceux qui disent, lorsqu'il y aura un État palestinien, on se réunira avec d'autres, on dira oui ou non, on reconnaît Israël, et d'autres qui disent, on ne le reconnaîtra jamais. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans l'interview, je lui dis à un moment donné, l'objectif du Hamas, c'est quoi? C'est de renvoyer tous les Israéliens en Europe, à dire, non, l'objectif du Hamas, c'est de mettre fin à l'occupation israélienne de la Cisjordanie, de Gaza, enfin, et du bouclage de Gaza et de Jérusalem-Est. Il n'était pas dans une posture, on veut détruire Israël,
Eh bien, moi, je crois, Georges Malbruno, que c'est le point faible de toute l'enquête. Je crois que...
Non, il faut les écouter. Attendez,
vous savez pas ce que je vais vous dire. Je crois. D'abord déjà cette idée, on verra une fois qu'on a un État, franchement, même au sein du Hamas, ça a 30 ans, hein, on a déjà entendu ça. Mais voilà, moi je crois
qu'il sait
que vous êtes un journaliste d'un grand journal français qui est lu en France, qui est lu au Quai d'Orsay, qui est lu à l'Élysée. Vous voyez, là vous êtes interrogé, vous répondez sur ce travail-là. Il le sait ça. Donc lui, il invente une idée à laquelle il ne peut pas croire. Non. Attendez, je vais vous dire. Mais vous ne savez pas ce que je vais vous dire, Georges. Laissez-moi parler. Dieu sait que j'ai été passionné par votre travail, mais je peux aussi développer une idée qui n'est qu'une question. Hein. Moi, je ne parle pas à votre place. Ma question, c'est la suivante. Lui, Khaled Meshal, ne croira jamais, Georges Malbruno, que Ashkelon, c'est autre chose qu'une ville arabe. Jamais. Ni Tel Aviv sera autre chose que Yafo, ni Jérusalem. Pas Est, Jérusalem sera autre chose que Al-Quds. Il ne croit. C'est sa nature. Vous ne pouvez pas demander à un gars du Hamas de penser autre chose. Et peut-être, donc on en vient une fois que je vous dis ça, par exemple, c'est une invention pour le Hamas de croire que Ashdod, c'est Israël, et Gaza est occupé. Quand on est du Hamas, on ne pense pas ça. On pense que c'est tout la Palestine. Vous connaissez quand même l'histoire, from the river to the sea, Palestine will be free. Mais j'en reviens à ma question, puisque ce qui m'intéresse, c'est ce que vous pensez, vous, et ce que vous avez vu à Doha. Mais donc, est-ce que quelque part, au risque de vous étonner, en vous tenant ce discours, qui effectivement peut lui coûter très cher, il peut même prendre une balle dans la tête s'il continue trop, de ses copains, pas seulement d'Israël, de ses copains, est-ce qu'il n'entérine pas, finalement, le fait que contrairement à tout ce qu'il dit, il sent bien que là, ils ont pris que là, ils vont mal, quoi. C'est, parce que pour qu'ils sortent comme ça, les vieux trucs... et on aura un État et on verra après, etc. Quand on est du Hamas, il faut vraiment qu'on ait et le couteau sous la gorge et le dos au mur. Voilà ma question. Et qu'est-ce que vous avez envie de me répondre?
Alors je crois que non, parce que, comme je vous le disais, ce débat existe bien avant l'attaque du 7 octobre, puisque dès 2017, il y a eu cette charte amendée, quand même, quelque chose d'important. Et il m'a dit aussi, en 2006, nous, on s'est réunis avec d'autres factions palestiniennes et on a implicitement reconnu Israël dans les frontières du 6 juin 1967. Donc, il y a au sein du Hamas des faucons, je dirais pas des colons, et des gens plus modérés, dont fait partie Khaled Meshal. Et je suis convaincu qu'il pense ça. Il m'a pas tenu. Je n'avais pas en face, je n'avais pas l'impression d'avoir en face de moi, Daesh, etc. J'avais des politiques qui me disent notre objectif, c'est mettre fin à l'occupation de la Cisjordanie.
Oui, mais l'occupation de quoi?
Je lui dis l'occupation de quoi?
Réfin.
Votre objet. Écoutez-moi, l'objectif, c'est de renvoyer les Juifs en Europe. Il m'a dit non, notre objectif, c'est de mettre fin à l'occupation. Voilà. Non. Donc, après, vous pensez ce que vous voulez, mais je suis intimement persuadés que ils sont dans une démarche politique et qu'ils vont chercher. Et je, contrairement à ce que vous dites, moi je ne suis pas le seul à le dire. Les Américains le disent. Le Hamas a gardé des capacités importantes militaires. Le Hamas ne sera pas annihilé, hélas, pour Israël. Et le Hamas sera, je crois, il faudra trouver une solution sans lui, mais avec des gens qui lui ressembleront. Parce que sinon, de toute façon, le Hamas va subsister. Il subsistera au Liban, il subsistera en Cisjordanie, en Jordanie, ailleurs, etc. Et il subsistera aussi à Gaza. Donc, ils sont dans cette logique politique. Il m'a pas tenu des propos ni antisémites, ni quoi que ce soit. Franchement, j'avais l'impression d'avoir en face de moi Marwan Barghouti en 2000 avec une version un peu islamiste. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est dire mettre fin à l'occupation de la Cisjordanie, de la bande de Gaza. Il me l'a répété. Alors peut-être qu'il ment comme il respire, mais je ne pense pas qu'il soit dans cet état d'esprit-là. C'est un politique qui est conscient que le Hamas aujourd'hui occupe la vedette sur la scène politique palestinienne. Il m'a dit, nous, on est prêts, on est pour le partage du pouvoir, on n'est pas dans une logique de domination. Et donc, voilà, simplement, il cherche un peu, effectivement, j'ai eu l'impression, d'où cet appel aux Américains. Il m'a dit, on note aux États-Unis l'évolution de l'opinion publique américaine, ils sont à l'affût de tous les sondages, ils connaissent très bien, ils sont à l'affût de l'opinion israélienne. Il m'a dit, on voit bien qu'Israël, pour l'instant, ne réussit pas ni à nous anéantir, ni à libérer les otages. L'opinion publique israélienne, eh bien, elle est...
Je pense que c'est pas réaliste. Il vous a dit, il commence à comprendre que c'est pas réaliste. C'est ça qu'il vous a dit. Il a utilisé le mot réaliste.
Il commence à comprendre que les objectifs israéliens ne sont pas réalistes.
D'ailleurs, c'est vrai, on commence à l'entendre. Je voudrais vous poser deux questions, Georges Malbruno, pour clore notre conversation qui est passionnante. Ce sont deux questions, mais en fait, c'est ma dernière question. Donc, vous y répondrez... si vous le souhaitez, évidemment, en une fois. D'abord, la première. Vous connaissez le principe de victoire à la Pyrrhus. Est-ce que le Hamas n'a pas trop bien réussi son coup? C'est-à-dire, faire un bus, faire deux bus, vous et moi, Georges, on a tous les deux vécu à Jérusalem. Vous étiez le correspondant d'Europe 1 à l'époque. Hamas, il ne nous a pas montré quelque chose qu'il ne fait pas. Hein. Il a tout le temps fait ça. Faire sauter les pizzerias, faire sauter les écoles. Oui. Il a toujours fait ça. Sauf que voilà, c'était un bus où il y avait 20 personnes.
Voilà.
Quand tout d'un coup il vient, il en fait 1300, 1280 le même jour, ça ne peut plus marcher. Ça, c'est plus acceptable. D'abord déjà, les Israéliens, il n'y a plus d'Israéliens qui peuvent prendre le risque de construire une garnison Hamas à sa frontière. Deuxièmement, je vois bien, même à Paris, dans une certaine mesure, toutes les autres confrontations israélo-Hamas, il y avait des dizaines et des dizaines de milliers de gens dans la rue tous les samedis. Là, ils leur ont coupé les ailes. Donc ça, c'est ma première question. Est-ce qu'ils ne sont pas victimes du succès horrible, cruel, horrible de leur 7 octobre? Et la deuxième question, et donc ma deuxième, pour vous permettre de conclure, vous, Georges, ma deuxième, c'est celle-là. Tout le monde me dit, mais la colère qu'il va y avoir en 10 ans à Gaza, mais vous n'imaginez pas, Jenin, c'est rien, à côté de... Puis même, le Hamas, c'est rien, à côté de ce que vous êtes en train de créer à Gaza. Enfin, la colère des Palestiniens, vous n'imaginez pas ce qui va se passer. Zoubeïdi était à peu près... on pouvait à peu près lui parler, aujourd'hui à Jenin, on ne peut plus leur parler. Mais Georges, et la colère des Israéliens? Et pourquoi les Israéliens, ils ne seraient pas en colère? Pourquoi eux, ils diraient, ah ben oui... Ben c'est pas grave, ben on va négocier. Et là, pourquoi personne parle de la colère des Israéliens? Quand même quelque chose d'extraordinaire. On leur tue comme ça, un samedi après-midi, 1300 personnes. Comme si on utilisait des sulfateuses, on tue leurs enfants, on tue les gens dans les lits, on kidnappe des grands-mères. Alors tout le monde pense à une colère, ben on analyse. Mais pourquoi personne pense à l'autre colère? À celle des gens qui habitent à Tel Aviv?
Oui, Bernard, ça, je vais vous répondre par la deuxième. Ouais. C'est ce que j'ai dit. à Khaled Michal et à Osama Hamdan. J'ai dit, on peut soutenir la cause palestinienne. Moi, je leur ai dit, je suis sioniste à Haïfa et à Tel Aviv, je suis anti-sioniste dans les territoires occupés pour soutenir les colonies. Et je lui dis, ce que vous avez fait, ça a nui à la cause palestinienne. Eux, on ne peut pas... Mais eux remettent ça dans l'histoire des 75 dernières années où il y a eu des dizaines de milliers de morts palestiniens. Donc, voilà, la colère israélienne, bien sûr qu'il faut l'entendre, on l'a entendu. Simplement, ce que le Hamas voit aujourd'hui, et il n'y a pas que le Hamas, c'est que depuis, il y a quand même eu plus de 25 000 morts à Gaza, dont une majorité de civils. Et donc, le Hamas capitalise sur ces morts-là pour apparaître comme celui qui, a remis sur le devant de la scène la cause palestinienne. Probablement, et là c'est pour répondre à votre première question, que ça a dépassé leurs espérances parce qu'il y a eu une faille sécuritaire énorme côté israélien. Et que maintenant, c'est pour ça, je vous dis, j'ai eu l'impression qu'en face de moi, j'avais un politique, pas quelqu'un qui est dans un délire de djihadiste, etc. Non, il m'a dit, nous, notre but, c'est pas d'attaquer l'Europe, la France, non. Notre but, c'est de libérer nos territoires, et voilà. Bon, mais je lui dis, mais vous avez les victimes civiles, alors là, il n'est pas crédible parce qu'il ne veut pas accepter qu'ils en ont tué beaucoup, parce qu'ils veulent apparaître comme des gens, un interlocuteur, ce qui ne seront pas effectivement côté israélien, a priori, je ne sais pas, mais vous savez, le conflit est vieux, le conflit est ancien, le conflit a fait des dizaines, des centaines de morts et des milliers de morts, nul ne sait ce qui sera fait demain, c'est parce que on voit bien que l'option militaire israélienne, quand même, moi c'est mon sentiment, à Gaza, ça va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps pour un résultat qui, pour l'instant, n'est pas là. Donc, dans 3 mois, peut-être que le Hamas sera anéanti, moi je me serais trompé, mais je pense que ces gens-là sont dans une optique politique, en usant du terrorisme horrible comme ça a été le cas, ils en ont probablement été, probablement, mais eux-mêmes n'étaient pas au courant des détails. Il m'a dit, moi, je n'étais pas au courant des détails opérationnels. Donc, c'est pour ça que je pense que tout le monde serait satisfait que Sinwar et Dave rejoignent l'au-delà, hein, et pas uniquement les Israéliens, parce qu'ils sont les empêcheurs de tourner en rond au fond de leur tunnel.
Georges Malbruno, merci pour ce travail, pour cet éclairage. Et d'ailleurs, je propose aux auditeurs de continuer à consulter votre enquête, puisque vous en dites beaucoup plus long, hein, il y a 10 pages, sur le site du Figaro. Merci d'avoir été l'invité de Radio Chalin. Bonsoir à vous.
Merci, au revoir.